Bonjour, vous êtes bien sur Bac FM 106.1. C'est l'heure de My Manga Academia, l'émission 100% manga présentée par Oriane, élève au lycée Raoul Follereau. Donc aujourd'hui, c'est la dernière émission de notre marathon de cette semaine, du coup. Et puis, c'est aussi également l'émission que je crois dont je vous ai parlé depuis le mois de septembre, du coup. Donc, sur Bleach. Donc, c'est une émission spéciale Bleach. On va la couper en deux, je pense. Donc, une première partie pour vous expliquer le synopsis, également l'intérêt, etc. On va aussi le comparer avec l'animé. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va essayer de voir les points forts et les points faibles et aussi parler de quelque chose qui touche beaucoup plus une grande sélection de mangas. Je pense notamment à One Piece et Senseiya, par exemple. Donc, Bleach est un shonen qui a été écrit par Tite Kubo et illustré également. Au début, comme tout grand manga a été publié dans le Weekly Shonen Jump. Et il est paru en 74 tomes et en France, il a été publié par l'éditeur Glénat. Je pense que ce qui vous intéresse énormément, c'est plutôt l'histoire. Donc, on va partir du tome 1. Pour éviter de spoiler la moitié de l'histoire, ce serait pas mal. Donc, pour commencer, nous suivons un jeune lycéen qui s'appelle Ichigo Kurosaki. Il a 15 ans. Et au tout début du manga, on voit qu'il se bat contre une bande de gamins qui doivent avoir à peu près le même âge que lui. Et s'il se bat, c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, lui, il a un pouvoir depuis qu'il est tout petit, c'est qu'il peut voir, entendre et toucher les âmes des morts. Et donc en fait, la bande de jeunes avait renversé un vase où il y avait des fleurs qui commémoraient la mémoire d'une petite fille de 5 ans qui était décédée. Et donc, lui, il trouvait ça absolument infâme. Et donc, il a rendu service à cette petite fille pour qu'elle puisse trouver la paix. Il faut savoir également que Ichigo a deux petites sœurs qui également ont la capacité de voir les morts, mais c'est plus différent. On va dire que Ichigo, lui, il peut les entendre, les toucher, il peut communiquer avec elles, que ses sœurs, on va dire qu'elles les voient, mais c'est assez flou, on va dire. Elles peuvent pas forcément les entendre, leur parler, c'est un petit peu compliqué, on va dire. Donc, vraiment, c'est Ichigo qui a vraiment cette aura qui fait qu'il peut parler, entendre, etc., les âmes des morts. Lui, il a une routine assez classique de lycéen. Il va au lycée, il parle à des amis. Il a une jeune fille, alors on ne sait pas trop s'il l'aime, mais en tout cas, elle le kiffe à mort, ça n'y a pas de problème. Et donc, sa routine, elle va être cassée à un moment donné. Il va faire la rencontre d'une shinigami. Donc, elle s'appelle Rukia Kuchiki. Cette shinigami, elle rentre dans sa chambre. Et elle le fait taire direct, elle lui explique comme quoi elle n'est pas là pour lui, elle est là parce qu'il y a un monstre, on va dire, c'est ce qu'on appelle un holo, donc c'est un fantôme mais maléfique entre guillemets. Et donc, elle lui explique qu'il y en a un tout proche, qu'elle sentait sa présence et que là, depuis qu'elle est dans la chambre, elle ne le sent plus du tout, elle ne sait pas où il est. En fait, c'est un signal mais très flou, elle ne sait pas s'il est proche ou pas ce monstre. Forcément, Ichigo, il la prend pour une folle. Pour lui, c'est pas du tout un fantôme, c'est une meuf qui est rentrée comme ça dans sa chambre et puis en fait il sait pas qui elle est, il sait pas du tout, elle s'est quasiment pas présentée. Il se rend compte réellement que c'est un fantôme au moment où son père rentre pour littéralement le frapper, pour lui dire d'arrêter de faire du bruit. Famille assez particulière, on va dire. Et il va se rendre compte que son père la voit pas du tout. Et donc c'est à ce moment-là qu'il se dit que réellement c'est un fantôme. Ils vont discuter légèrement, elle va l'attacher pour qu'il se taise, forcément, et elle va lui expliquer ce que c'est un holo et la différence avec d'autres fantômes. Alors on a les fantômes entre guillemets plus, ce sont des âmes de mort, tout simplement. Et donc, ces esprits-là attendent tout simemplement de pouvoir aller, pour nous, ce qu'on appelle le paradis. Et ensuite, il y a les autres types d'esprits, c'est ce qu'on appelle les holos. Donc eux, ce sont des esprits qui malheureusement n'ont pas trouvé la paix, se sont peut-être perdus en chemin et n'ont pas croisé un shinigami pour les aider à rejoindre le ciel justement. Et en fait, ils vont être rongés par les remords, par la haine également et ils vont se mettre à attaquer des êtres humains et à essayer de tout simplement avaler, manger leur âme. Et en fait, il faut savoir un truc, c'est qu'ils ne s'en prennent pas seulement aux êtres humains, mais également aux autres bien fantômes qui, eux, sont, eh bien, sont tout à fait normaux, entre guillemets. Donc, ils sont, on va dire, des fantômes gentils. Et donc, ils s'en prennent également à eux. Eh bien, en fait, ils s'attaquent à eux. Donc là, vu qu'il n'y a que l'âme, il n'y a pas l'enveloppe corporelle, et bien là, ils les mangent directement. C'est un gros problème pour Ichigo et Rukia, parce qu'en fait, lui, il va sentir la présence du holo, alors qu'il n'est pas censé. Lui, il est simplement censé pouvoir voir, entendre et bien aussi également parler, communiquer avec les fantômes. Mais en aucun cas, il n'est censé pouvoir sentir leur aura, en fait. Et c'est ça le problème, et c'est ça qui va mettre la puce à l'oreille à Rukia, qui se demande est-ce que c'est pas lui, tout simplement, qui ben, concentre toute l'aura de ce holo et qui, lui, à elle, lui empêche de pouvoir savoir où il est. Elle n'a pas réellement le temps de réfléchir là-dessus. Que, eh bien, en fait, on entend les petites sœurs de Ichigo crier et Ichigo va tout simplement courir, essayer de retrouver ses sœurs. Il en trouve une qui est à moitié morte, qui est en sang sur le palier. Lui, il descend les escaliers et il tombe nez à nez avec un monstre absolument hideux, il faut être honnête. Hein. Par contre, le graphisme pour le manga est exceptionnel. Hein. Et pour Ichigo, il essaye de protéger bien les membres de sa famille. Son père est complètement massacré sur un coin de la pièce. Il y a un énorme trou dans sa maison. Et sa sœur est à l'étage. Et en fait, la seule réaction qu'a eue sa sœur, c'est de lui dire de s'enfuir. Vraiment, elle n'a même pas pensé à sa vie. C'est vraiment son frère, enfuis-toi. C'est clairement ça qu'elle va lui dire. Lui va essayer de sauver sa famille. Surtout qu'en plus, le holo tient sa deuxième sœur dans la main. Et c'est à ce moment-là que Rukia va rentrer en scène. Elle va essayer de protéger le reste des membres de sa famille. Et en fait, c'est à ce moment-là où elle crie à Ichigo que la famille, sa famille en fait, ne l'intéresse pas du tout à ce holo. En fait, ce qui l'intéresse, c'est Ichigo, parce qu'il il émet une sorte d'aura spirituelle qui en fait, attire le holo. En fait, sa famille, il s'en fiche. C'est lui qu'il va essayer de manger. Et donc, Rukia va essayer de le protéger, sauf que Ichigo, forcément, c'est un adolescent, il a 15 ans, donc lui, pour lui, c'est le plus fort, etc. Donc, il va foncer tête baissée. Puis, en même temps, j'ai envie de vous dire, sa famille est à moitié morte. Donc, en fait, dans ces moments-là, on a envie de dire que sa vie, on s'en fout un peu. Et donc, il va essayer de s'en prendre au holo, sauf que je vous rappelle quand même que c'est un esprit malveillant. Tu ne peux pas le vaincre avec tes petits bras d'être humain, c'est clairement ça. Et donc, au moment où il va essayer de s'en prendre, il va même provoquer le holo en lui disant qu'il faut qu'il laisse sa famille tranquille et que s'il veut s'en prendre à quelqu'un, c'est à lui, qu'il a un peu de cran, en fait, tout simplement. Rukia va se faire attaquer, malheureusement, par le holo à la place de Ichigo. Elle va le protéger. Elle est à deux doigts de... Enfin, entre guillemets, deux doigts de mourir, parce que j'ai envie de vous dire, c'est une Shinigami, donc c'est un dieu de la mort, donc théoriquement, elle ne peut pas forcément mourir, on va dire. Mais en fait, elle va expliquer à Ichigo que maintenant qu'elle ne peut plus se défendre, qu'elle ne peut plus défendre personne, ils vont tous mourir. Elle lui explique que la seule façon de protéger sa famille, c'est qu'ils prennent son espèce d'épée. On verra comment ça s'appelle après. Et qu'il se transperce tout simplement la poitrine. Et en fait, elle va lui donner une partie de son pouvoir de Shinigami, ce qui va lui permettre à Ichigo de devenir lui-même un Shinigami et de pouvoir défendre sa famille et Rukia. Il y a un moment très émouvant en fait dans le manga où il se pose plein de questions en fait, parce que forcément se transpercer la poitrine, c'est pas tous les jours que tu le fais. Mais en fait, lui, il se rappelle que sa sœur, lorsqu'elle est montée, elle n'a pas pensé à elle. Elle n'a pas pensé, elle lui a pas dit oui, aide-moi, sauve-moi, fais quelque chose. Non, elle lui a dit sauve ta peau, barre-toi, clairement, c'est ça. Et en fait, lui, il se dit si sa famille a pensé à une seule chose, à savoir sa vie à lui, et ben lui, il leur doit minimum ça et ne pas hésiter à se transpercer la poitrine et tenter quelque chose. Alors, il faut savoir que quand même, l'opération que Rukia veut faire est quand même très dangereuse. En fait, il y a très peu de chances que ça marche. Sauf que je vous rappelle quand même qu'on est dans un shonen, donc forcément, ça va marcher. Elle va essayer de transférer une partie de son pouvoir à Ichigo. Et en fait, au lieu de lui transférer la moitié, Ichigo, il va lui prendre tout son pouvoir, comme ça, au moins, c'est fait. Et c'est à ce moment-là aussi que je trouve que le design du manga est absolument exceptionnel. Ichigo qui est en Shinigami, vraiment avec la tenue traditionnelle noire, avec son épée, son sabre, c'est vraiment impressionnant, je trouve. Moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas. Même dans l'animé, c'est très très bien représenté. Donc Ichigo va finir par protéger sa famille, il va tuer le Shinigami. Et après ça, il va essayer de voir si Rukia va bien. Et en fait, elle a tout simplement disparu. Il va retrouver sa famille, son père lui crie dessus, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Et en fait, Ichigo va poser une question qui paraît totalement normale, c'est lui demander est-ce que ses blessures vont bien, parce que dans le manga, il y a vraiment un passage où on le voit qui est complètement éclaté contre les murs de sa maison. Et en fait, le père, il ne comprend pas ce que lui dit son fils. Il lui dit « Mais comment ça, quelle blessure ? Enfin, moi, tout va bien. » Et en fait, c'est à ce moment-là que Ichigo se rend compte que ses sœurs n'ont aucune blessure, son père également, et qu'en fait, pire que ça, ils ne se souviennent absolument pas qu'il y a un monstre d'environ 3 mètres, 4 mètres, même j'ai envie de dire, qui les a attaqués, quoi. Et Ichigo, en fait, se rend compte même d'autre chose. Pour eux, il y a un bus, il me semble, ou un camion, je ne sais plus, qui leur est rentré dans la maison, et c'est pour ça qu'il y a un trou, en fait. En fait, à aucun moment, ils ont le souvenir qu'ils se sont fait attaquer par un holo, que Ichigo les a protégés, etc., etc. Donc lui, il est un petit peu désemparé, il ne comprend pas réellement ce qui s'est passé. Pour être honnête, je me demande même s'il ne se demande pas s'il n'a pas un peu rêvé, tout simplement. Il va au lycée le lendemain, il parle avec plusieurs de ses camarades, et c'est à ce moment-là que Rukia refait son apparition. Il la voit, elle se fait passer pour une nouvelle élève. Et en fait, c'est un moment un peu assez comique, on va dire. Lorsqu'elle explique à Ichigo comme quoi elle n'a pas encore ses manuels parce qu'elle est nouvelle, elle tend sa main pour qu'il lui prête un des manuels qu'il a. Et en fait, sur sa main, il y a marqué « Si tu parles, je te tue ». Au moins, comme ça, le message passe très vite. Pour la suite de l'histoire, en fait, Ichigo se pose déjà une question. Comment ça se fait que ses camarades voient Rukia ? Parce que c'est un Shinigami que lui est censé pouvoir la voir, tout simplement, parce que lui, il voit les fantômes. Donc, c'est normal qu'il puisse l'observer, etc. Mais par exemple, son père ne la voyait pas. Donc, pourquoi les autres puissent ? Eh bien, tout simplement parce que elle n'a plus son... En fait, ce n'est plus un Shinigami. Parce que je vous rappelle qu'Ichigo a avalé la moitié de son... Enfin, la totalité de son pouvoir. Et donc, elle a pris une enveloppe corporelle d'emprunt, on va dire. Donc, ce qui lui permet d'une, de pouvoir être aux côtés d'Ichigo. Et de deux, d'éviter de se faire attaquer par des holos, parce que vu qu'elle est affaiblie, eh bien, elle peut plus réellement se défendre. Et donc, elle pourrait se faire manger, se faire attaquer, etc., etc. Elle explique à Ichigo qu'il y a un temps de réadaptation où elle puisse tout simplement guérir. Et donc, elle décide de former Ichigo pour battre les holos et tout simplement la remplacer le temps qu'elle puisse se soigner, tout simplement. Ichigo, il n'est pas forcément d'accord avec ça. En fait, c'est à ce moment-là qu'on voit un petit peu le caractère rebelle que peut avoir le personnage. Il lui explique comme quoi s'il s'en est pris au holo la nuit dernière, c'est parce que c'est sa famille qu'on attaquait. Et que lui, il n'allait pas défendre des gens qu'il ne connaissait pas. Et puis mettre sa vie en danger pour ça, tout simplement. Et en fait, il n'a même pas le temps de terminer ses mots qu'elle lui explique qu'il y a un holo qui va apparaître. Elle a reçu des messages de la Soul Society. Donc, c'est tout simplement là où toutes les âmes, etc. se retrouvent. Et elle en fait partie. Et donc, elle lui explique que ses supérieurs lui ont envoyé un message en lui expliquant qu'à telle heure et à tel endroit, justement au jardin du lycée, il y allait avoir un holo qui allait apparaître. C'est exactement le cas. En fait, il y a un petit garçon décédé, malheureusement, l'âme d'un petit garçon qui est dans ce jardin. Et c'est au moment où Ichigo lui explique ça que le holo apparaît. Et en fait, il va tout simplement tuer ce holo, défendre le petit garçon. Et en fait, Rukia lui demande comment ça se fait qu'il a défendu ce gamin, alors qu'il a dit qu'il n'était pas prêt à mettre sa vie en jeu pour des êtres qu'il ne connaissait pas. Et en fait, il va tout simplement lui expliquer que là, pour le coup, le gamin, il n'allait pas le laisser se faire tuer devant lui, que ce n'était pas juste et que lui, il avait la capacité de le défendre, donc il le ferait. Par contre, aller défendre quelqu'un parce qu'on a envoyé un message à l'autre bout de la ville, c'est pas forcément dans ses projets. En discutant avec Rukia, Ichigo comprend qu'elle veut vraiment qu'il prenne sa place, tout simplement, qu'il remplisse les tâches qu'un Shinigami doit faire, et lui n'en a pas forcément envie, et c'est à ce moment-là qu'on a l'arrivée d'un nouveau personnage. Donc elle s'appelle Orihime Inui. Alors je suis vraiment désolée si la prononciation n'est pas bon pour son prénom, Ça fait un moment que j'ai vu l'animé, mais il me semble que c'est Inui. Donc c'est une jeune lycéenne qui est orpheline et qui est complètement dingue de Ichigo. Elle l'adore, elle l'aime, clairement. Sauf qu'elle n'a jamais eu le courage d'aller lui avouer ses sentiments. Et c'est vrai qu'elle est un petit peu jalouse du fait que Ichigo est avec Rukia. Si je vous parle de cette jeune fille, c'est que tout simplement, le troisième holo que va combattre Ichigo, eh bien, c'est tout simplement un holo qui va s'en prendre à cette orpheline. Et donc, en discutant avec Orihime, Rukia se rend compte qu'elle s'est fait... elle explique comme quoi elle s'est fait renverser par une voiture. Elle dit ça vraiment avec le sourire, comme si elle était tombée des escaliers, vraiment. C'est vrai que ça surprend pour le coup. Pour faire un parallèle, par exemple, ça me rappelle un petit peu Shinobu dans Demon Slayer, qui, pareil, a le sourire tout le temps, alors qu'il y a des gamins qui sont massacrés, qu'elle les protège, etc. Moi, pareil, ça m'a fait vraiment penser à ça. Et donc, Inui, en fait, explique qu'elle s'est fait renverser, donc elle a un pansement au niveau du coude. Et en fait, Rukia remarque qu'elle a une blessure également, enfin, une marque plutôt, au niveau de la jambe. Et en fait, Inui lui dit, je m'en étais peut-être pas rendu compte, mais je pense que je me suis blessée la jambe quand je me suis fait renverser. Et en fait, Inui pense cela, mais c'est pas du tout le cas. Rukia explique à Ichigo qu'en réalité, cette marque, c'est plutôt la marque de morsure d'un holo, justement. Et donc, c'est potentiellement la cible. C'est ça le troisième combat que va mener Ichigo. Rukia va expliquer à Ichigo que ce serait peut-être bien qu'il attaque par surprise ses adversaires et qu'en fait, il leur tranche la tête d'un coup net. Sauf que Ichigo lui explique que lui, il n'a pas forcément envie, que jusqu'à maintenant, il s'est bien débrouillé et que c'est bon. Et en fait, c'est à ce moment-là où il va avoir tort. Lorsque le troisième holo va l'attaquer, il va voir le visage de ce monstre. Et en fait, il se rend compte que c'est le grand frère de Inui qui est décédé 3 ans plus tôt. C'est à ce moment-là aussi également qu'on a un passage très émouvant où on a l'histoire de Orihime Inui. Donc en fait, comme je vous l'ai dit, c'est une orpheline. Elle a 15 ans comme Ichigo. Et en fait, son grand frère, il l'a amenée avec lui. En fait, il s'est enfui avec elle lorsqu'il avait 18 ans et qu'elle en avait 3. Et en fait, c'est tout simplement parce que sa mère était une prostituée et son père était très violent et souvent très absent également. Sauf qu'en fait, ce gamin est mort en allant au travail. Alors, gamin, bon, tout est relatif. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est mort en allant au travail. Il me semble qu'il a eu un accident de voiture. Et en fait, depuis, elle vit toute seule. Parce que aller vivre avec une mère qui est prostituée et un père qui est violent, c'est pas forcément la meilleure chose. Mais en fait, c'est une fille qui s'oblige tout le temps à sourire, à être joyeuse pour pas inquiéter les autres. Et c'est pour ça aussi que on comprend sa réaction face à son accident de voiture. Ce que je veux dire, c'est qu'elle s'est fait renverser par une voiture. Elle aurait pu aller porter plainte, elle aurait pu crier sur le mec, quoi. Fais attention, le feu était vert, tu la renverses pas, quoi. Et donc, en fait, on comprend réellement pourquoi Orihime est comme ça, en fait, tout simplement, pourquoi elle est tout le temps souriante, pourquoi il n'y a pas une once de haine, on va dire, en elle. Et justement, pour en revenir au combat, le holo, c'est son frère, c'est son grand frère qui s'est transformé. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'Ichigo comprend que... Enfin, c'est surtout Rukia qui lui explique. En fait, trancher la tête de son adversaire par derrière, d'une, ça te permet d'être sûr de le tuer, de ne pas avoir d'accident ou quoi que ce soit. Mais de deux, surtout, ça te permet de ne pas savoir qui est le holo, parce que ce genre de monstres, en fait, ont déjà été des êtres humains, ont même été des fantômes avant de se transformer en holo, tout simplement. Comme je vous l'ai dit, ce sont des êtres qui n'ont pas trouvé la paix, qui se sont perdus en chemin, etc. Et on va comprendre pourquoi son frère, le grand frère de Inui, s'est transformé en holo. Il va s'en prendre à sa petite sœur. Rukia va expliquer à Ichigo que un holo, comme il est perdu, comme il n'y a plus que de la haine en lui, la seule chose qui le maintient, c'est sa famille, les êtres qu'il aime le plus. Et donc en fait, les premières personnes qu'il va manger, c'est eux. Et ensuite, s'il s'attaque à d'autres personnes, c'est qu'il s'en est déjà pris à sa famille. Par exemple, elle lui donne un exemple, tout simplement. Généralement, on entend des histoires où une personne âgée, un vieux monsieur, est décédé et que 3-4 mois après, sa femme est décédée et on dit comme quoi elle l'a suivie. En fait, elle lui explique que dans 3/4 des cas, c'est qu'en fait, la personne s'est transformée en holo et a dévoré sa femme parce que ben, c'est sa famille, c'est la personne qu'il aimait le plus. Et donc là, elle lui explique que ben il va à tout prix essayer de dévorer l'âme de Inui. D'ailleurs, dans le manga, c'est plutôt bien représenté, même dans l'animé d'ailleurs. Hein. En fait, l'âme et le corps de Inui vont être séparés en deux. Il y a une chaîne qui rattache son âme à sa poitrine. Et en fait, si elle se fait dévorer, ben c'est fini. Elle va mourir. Ichigo va essayer de la protéger comme il peut. Donc je vous passe les détails du combat. On sait juste qu'à la fin, on comprend pourquoi le frère a une haine si immense envers sa sœur. En fait, ils se sont disputés le jour où il a eu son accident. Elle était jeune, hein, on va dire. Ils se sont disputés pour un truc en plus complètement débile, d'après Inui. C'est pour des barrettes, on va dire. Et en fait, elle s'en est toujours voulu. Et comme elle s'en est toujours voulu, eh bien, au tout début, elle n'arrêtait pas de prier devant la photo de son frère. Et lui, il la regardait. En tant qu'esprit. Sauf qu'en fait, après, elle a rencontré sa meilleure amie, donc elle a commencé un petit peu à moins prier, et ensuite, lorsqu'elle a rencontré Ichigo, bah alors là, elle a complètement arrêté, et en fait, il lui en veut pour ça. Sauf que sa sœur lui explique que si elle a arrêté de prier, c'est parce qu'en fait, elle ne voulait pas lui montrer une image triste tout le temps. Mais en fait, on sait qu'elle se pointait tout le temps devant sa photo chaque soir et qu'elle lui expliquait bien sa journée. Elle lui parlait énormément d'Ichigo, vu que c'était bien entre guillemets son crush. Et donc, c'est vrai qu'au fond, on voit vraiment un moment très émouvant dans Bleach, tout simplement, où on voit ben, un grand frère et une petite sœur qui souffrent tous les deux. Et c'est ça qu'Ichigo essaie d'expliquer bien au holo, tout simplement. C'est que lui, oui, il a souffert parce qu'elle a arrêté de prier, mais elle... ben, ça a dû la détruire complètement. Elle a perdu le seul membre de sa famille qui lui restait, et c'est ça en fait qui rend la scène très émouvante. Ichigo va tuer le grand frère de Inui pour éviter qu'il la dévore, et en fait durant cette scène on comprend deux choses. D'une, c'est que en tuant un holo, vous ne le tuez pas réellement. En fait, vous l'envoyez à la Soul Society et vous le purifiez de tous les péchés qu'il a pu commettre durant sa transformation, on va dire. Et ensuite, vous avez tout simplement un contraste, on va dire. Ça veut dire que oui, les holos sont parfois très cruels, mais en fait, il y en a certains qui arrivent à se contrôler, entre guillemets, pendant une courte période. Par exemple, ben, tout simplement, le grand frère de Inui ne l'a pas dévoré alors qu'il en avait eu l'occasion. Il s'est arrêté en discutant avec elle. Donc, ce sont deux informations que nous avons en plus. Et donc, Ichigo, alors, est prêt à défendre ben, tout simplement les gens qui pourraient être victimes de holo, il en est sûr. Il va aider Rukia à accomplir sa mission. Et également, de plus, il se rend compte que en fait, si son père et ses deux sœurs ne se sont pas rappelés de ce qui s'était passé, c'est tout simplement parce que Rukia leur injecte une sorte de produit qui efface leurs souvenirs et qui implante de nouveaux souvenirs. Alors les souvenirs, parfois, ils peuvent être un peu bancals. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, pour la famille d'Ichigo, c'était un camion qui était rentré dans leur mur. Pour Inui, elle a expliqué que si sa maison était sans dessus-dessous, c'était parce qu'il y avait un sumo qui était rentré et qui avait sauté sur son lit. On dira rien, c'est pas grave, c'est une machine qui génère les souvenirs, donc c'est vrai que des fois il peut avoir des ratés, on va dire, mais c'est un petit détail, mais qui est assez comique, on va dire. Pour terminer le synopsis de l'histoire, on a Rukia qui, je vous rappelle, a donné l'intégralité de son pouvoir à un être humain. Est-ce qu'elle ne pourrait pas être punie pour ça ? Spoiler alerte, bien sûr qu'elle va être punie pour ça, ça va d'ailleurs être le début eh bien, du premier arc. L'arc de la Soul Society, Ichigo va devoir sauver Rukia et il va former une équipe avec. Il y aura notamment Shad qui est, moi la première fois que je l'ai vu dans le manga, c'est vraiment un adolescent de son âge, mais vraiment très costaud. Le mec, quand il est arrivé dans une clinique, il était très blessé. Il avait des blessures tout le dos, il pouvait marcher encore, tout allait bien, vraiment. Et donc, il va former du coup une équipe en intégrant Inui, Shad et quelqu'un d'autre également. Pour essayer de sauver Rukia. Il y aura plusieurs arcs également. Il va falloir sauver Inui à un moment donné. Je vais éviter de... Enfin, moi, au début, je voulais parler de chacun des arcs, sauf que je me suis dit que ça allait être extrêmement long et qu'en même temps, ça n'allait pas forcément être très intéressant. Et donc, je préférais vraiment vous raconter que le début du synopsis, puis après, vous laisser voir les différents arcs, pardon. Et ensuite, vous faire les points positifs et les points négatifs. Du coup, on va marquer une courte pause musicale avec le premier opening de Bleach et on se retrouve après pour les points positifs et les points négatifs. Donc nous sommes de retour sur Bac FM 106.1, c'est bien My Manga Academia, donc c'est une émission spéciale Bleach. Donc on va attaquer les points positifs et les points négatifs de la série. Moi j'ai les 74 tomes à la maison, donc autant vous dire que je les ai lus plusieurs fois parce que c'est vraiment un dessin qui est alors à la fois simpliste dans les premiers tomes, mais aussi exceptionnel vraiment pour les derniers. L'animé aussi, j'ai bien aimé. Alors, j'aurais 2-3 points négatifs à donner pour celui-ci. Mais honnêtement, c'est vraiment une animation que j'ai beaucoup aimée. Alors, bien entendu, elle n'égalera jamais celle de Demon Slayer. Mais bon, après, pour leur défense, il y a 16 saisons à l'heure actuelle. Et donc, c'est vrai que faire 16 saisons comparé à Demon Slayer où il y en a 3 et puis un film, c'est vrai que ce n'est pas du tout la même cour, on va dire. Pour en revenir au point positif, je trouve vraiment que le graphisme est exceptionnel. Vraiment, le dessin est sublime, je trouve. Et en fait, aussi les combats. L'auteur, je trouve, l'auteur, l'illustrateur, d'ailleurs, c'est la même personne, a décidé de détailler à mort les personnages et à faire un décor qui est peut-être un peu moins détaillé, mais qui, du coup, fait ressortir énormément les personnages. Après, je vais pas vous mentir, c'est aussi une illustration des années 2000, donc un petit peu comme pour les premiers tomes de One Piece ou pour Senseiya si vous avez connu. Et donc c'est vraiment, je trouve, vraiment un dessin qui rappelle l'ancien temps peut-être, mais également aussi un dessin qui fait vraiment ressortir les personnages. À la limite, le décor, on s'en fiche un petit peu. Pour être honnête avec vous, la première saison, alors je ne sais plus pour quel tome ça s'arrête du coup, mais on est vraiment dans le Tokyo des années 2000. Et ensuite, on est aussi dans la Soul Society, donc à la limite, que le décor soit bien détaillé, ce n'est pas forcément quelque chose de problématique. J'ai aussi un autre point positif à donner, c'est qu'en fait, le décor, il est plutôt bien complété avec l'animé. Je trouve vraiment que ça ramène quelque chose de vraiment exceptionnel. En fait, les deux se complètent plutôt bien. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi, je ne suis pas forcément très très fan d'animé. J'aime beaucoup les mangas, mais c'est vrai que les animés, j'ai un petit peu de mal, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça dénature un petit peu l'œuvre. Et là, pour le coup... je trouve que ça se complète plutôt bien que j'aurai 2-3 trucs à redire là-dessus. Vraiment, l'animation est exceptionnelle, on a vraiment les personnages tels qu'ils sont. Et Ichigo, rien que pour ses tout premiers combats, je trouve que ça apporte quelque chose en plus. Moi, si j'ai un point négatif à donner pour l'animé, c'est qu'en fait, il y a 5 arcs narratifs qui sont indépendants du manga. Donc en fait, pour faire simple, on a 16 saisons pour maintenant. Il me semble qu'il y a la 17e qui sort en juillet 2023. Et donc en fait, dans ces 16 saisons, il y a des arcs qui ne sont pas dans le manga. En fait, c'est tout simplement l'édition qui a décidé de rajouter des scènes qui n'existent pas dans le manga. Alors, pour être honnête avec vous, moi, j'ai rien contre le fait qu'on rajoute quelque chose dans un animé pour apporter quelque chose en plus. Sauf qu'en fait, c'est de ça dont je voulais parler. Je crois surtout qu'il y a un gros business marketing et financier derrière beaucoup de séries. Je ne parle pas simplement de Bleach, je parle d'un pack de séries, enfin d'animés, qui fait que, en fait, on a des arcs en plus qui sont rajoutés, on a des histoires qui sont prolongées à peu près 1000 épisodes, voire plus, par exemple, pour One Piece. Et donc, en fait, ça fait que des fois, ça, bah, justement, on commence à en avoir marre, justement. Moi, Bleach, ce que j'aimais beaucoup, c'est que les combats, ils avaient un sens. Par exemple, si on reprend le synopsis de base, Ichigo, le premier combat qu'il a, il se bat contre un holo pour défendre sa famille. Le deuxième, il se bat pour un petit garçon qui est à deux doigts de se faire bouffer, même si c'est une âme, personne ne mérite ça. Et le troisième combat, il défend Inui. Et on a vraiment un intérêt derrière à voir ça. C'est que, oui, il défend Inui, mais on apprend également son passé. On sait beaucoup plus de choses sur les holos. Le premier combat, on apprend réellement ce qui se passe dans la famille d'Ichigo. On sait également qui est Rukia. On en apprend un peu plus sur la Soul Society, etc. Le deuxième combat, on comprend que Ichigo, oui, il n'a pas envie de se battre pour d'autres personnes, mais quand il est face à elle, il ne peut pas les laisser mourir. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Sauf que, en fait, dans ces arcs-là, j'ai l'impression qu'il y a du combat pour du combat. En fait, si le mec, il est là juste pour se battre, bah, il n'y a pas réellement d'intérêt. Il faut qu'il y ait un objectif, il faut qu'il y ait quelque chose. Après, j'ai envie de vous dire, c'est pas simplement pour Bleach. Moi, j'en ai un en tête là tout de suite, ce serait Dragon Ball. J'ai beaucoup aimé, j'adore. Mais il faut être honnête, il y a des arcs qui servent à rien. C'est la réalité. Sans vous spoiler, le mec, c'est le plus fort. Pourquoi être plus fort ? Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a personne qui peut l'égaler, donc pourquoi être plus fort que ce que tu es déjà ? Et vous allez me dire peut-être qu'il y a un objectif derrière. D'accord, pas de souci, sauf qu'il y a des épisodes où pendant 20 minutes, on voit un mec qui est en train de se charger à bloc et qui va se battre contre quelqu'un qui, même à un quart de sa puissance, ne pourrait pas gagner, en fait. Donc, il n'y a pas réellement d'intérêt. C'est pareil pour Bleach. Moi, je trouve que les 5 arcs qui ont été rajoutés, ben, c'est simplement économiquement, vu que ben, la série marchait bien, ben, on a rajouté quelque chose. Sauf que moi, honnêtement, je trouve que ça n'apporte strictement rien au manga, déjà. Et ensuite, bien que les combats ne sont pas intéressants, entre guillemets, oui, on voit Ichigo qui se bat, qui est fort, d'accord. Mais enfin, faut qu'il y ait un intérêt, faut qu'il y ait quelque chose derrière, faut qu'il y ait une explication également. Et en fait, personnellement, je trouve que vraiment ça n'a rien rajouté à l'animé déjà de base, et ensuite au manga. Ensuite, pour continuer sur cette lignée, on va dire, moi, il y a un autre souci que je trouve. Enfin, là, c'est même pas pour Bleach, c'est pour beaucoup de séries. En fait, généralement, les mangaka, ils ont une histoire en tête. Et une fois qu'ils ont cette histoire en tête, tu peux pas rajouter des trucs en plein milieu parce que ça marche pas. En fait, l'histoire, elle a un sens et si tu rajoutes quelque chose, ça se sent en fait. Et le problème, c'est que bah, généralement, c'est comme ça que ça se passe. La série marche bien, donc on va pas l'arrêter à 10 ou 12 tomes. Et j'ai même envie de vous dire, c'est même pas une question de tomes en fait. C'est une question, tout simplement de prolonger l'histoire pour continuer à vendre. Une série qui est très courte, par exemple, que j'ai déjà présentée dans l'émission, qui s'appelle Death Note. Pour le coup, on aurait pu s'arrêter avant. Enfin, faut être honnête, c'est un des mangas que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu le manga, j'ai regardé l'animé, j'ai même acheté alors que je les avais déjà lus parce que ben, c'est une série que je trouve exceptionnelle également. Mais la fin est nulle, faut être honnête. La fin est nulle, on sent que ben, l'auteur s'est obligé à rajouter des trucs parce qu'on lui a demandé. Et au final, ben, ça rajoute rien. Au contraire, on est même un peu déçu. Après, chacun son avis, d'accord, mais c'est vrai que la plupart des personnes avec qui j'ai parlé de Death Note, ils m'ont dit qu'il faut s'arrêter 2-3 tomes avant, quoi. Et ben, c'est pareil, par exemple, pour Bleach. Je trouve, dans les 74 tomes, il y en a, on pourrait les enlever, honnêtement. Il y a des combats, on pourrait les enlever également, parce qu'il n'y a pas d'intérêt, moi, je trouve, personnellement. En fait, pour essayer de vous faire comprendre ce que je veux dire, on va reprendre Demon Slayer, c'est un des animés que je maîtrise le mieux. Par exemple, pour la saison 2, on va éviter de spoiler, mais on sait très bien qu'à un moment donné, Nezuko a un combat. Ce combat, si c'était uniquement pour combattre, on est d'accord qu'il n'aurait aucun intérêt. En fait, on découvre une nouvelle forme de Nezuko, donc ça c'est le premier point. Ensuite, on se rend compte que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passera, elle défendra Tanjiro, peu importe ce qui arrivera. Et ensuite, on se rend compte également qu'elle a été traumatisée, entre guillemets, par ce qui s'est passé pour sa famille. Et en fait, tout ça, ça donne un intérêt au combat. Mais si elle se battait uniquement et puis qu'il n'y aurait aucun intérêt, ben, on s'en fiche un petit peu, en fait, si elle se bat. Enfin, voilà. Et même pour donner un contre-exemple, entre guillemets, par exemple, dans la saison 1, Nezuko se bat contre un démon qui a plusieurs clones. J'ai envie de vous dire, je crois que le combat dure 2 épisodes, et encore, il y a aussi le combat avec Tanjiro, donc à la limite, voilà. Le combat, s'il avait duré une saison complète, donc 19 épisodes, j'ai envie de vous dire, on aurait un peu saturé. Oui, on a compris, elle se bat contre les clones. Oui, on a compris, elle a une force immense, mais c'est bon, quoi, ça va. Et donc, en fait, c'est pareil pour Bleach, et c'est pareil pour beaucoup d'animés. En fait, j'ai l'impression que, bah, en fait, c'est même pas une impression, c'est la réalité. En fait, il y a des mangaka qui, à un moment donné, n'ont strictement plus rien à dire. Faudrait arrêter le manga à ce moment-là. Sauf que vu que ça marche bien, eh ben on rajoute. Sauf qu'à un moment donné, ça n'a plus aucun sens. Par exemple, pour Dragon Ball, il me semble vraiment que le mangaka avait dit, à partir d'un certain arc, je n'ai plus rien à dire, je n'ai plus rien à raconter parce que c'est fini, tout simplement. Sauf qu'il marche bien. Donc on fait plusieurs variantes de l'anime, on rajoute des arcs qui n'ont strictement plus aucun sens, entre guillemets. Et donc en fait, c'est ça qui, à mon avis, dénature beaucoup certaines œuvres qui sont exceptionnelles. Selon moi, c'est pareil par exemple pour One Piece. Moi, j'aime beaucoup, hein, honnêtement, j'ai acheté certains mangas, j'ai regardé 2-3 épisodes de l'animé, sauf qu'à un moment donné, il y en a plus de 100, il y a plus de 1000 épisodes. Alors oui, c'est un record, oui, c'est bien, oui, c'est mignon, mais enfin, à un moment donné, on sature quoi, un petit peu, faut être honnête. Et en fait, c'est ça que je reproche un petit peu, mais pas simplement à Bleach, à beaucoup d'animés et de mangas, c'est qu'en fait, on rallonge énormément le synopsis jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucun sens. Et c'est ça qui est dommage. Moi, honnêtement, Bleach, je pense que vraiment, il aurait pu peut-être faire... alors, on aurait retiré la moitié des mangas, faut être honnête, mais on aurait peut-être pu retirer environ 10 mangas, je pense, honnêtement, où il y a des combats qui servent strictement à rien. Et peut-être que l'œuvre aurait été bien meilleure, entre guillemets. Vraiment, même dans l'animé, ça se ressent. Il y a des arcs, vraiment, on s'en fiche. Pour revenir aux arcs indépendants qui ont été rajoutés indépendamment du manga, moi, il y a l'arc Boons, il me semble. Vraiment, je l'ai regardé. Il me semble qu'il y avait 19 épisodes, je crois. Enfin, en fait, je l'ai même regardé 2 fois parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est pas moi qui a payé attention à ce qui se passait. Puis j'ai pas compris en fait quelque chose, mais non, juste il y avait des combats, ils étaient là et puis voilà quoi. Enfin, vraiment, il y avait aucun intérêt derrière. Et c'est ça qui est dommage, entre guillemets. Après, enfin, c'est un avis. Peut-être que vous allez adorer les arcs que j'ai cités. Moi personnellement, je trouve que en fait, du moment que ça ne rajoute rien au manga, ben. Autant pas les mettre, tout simplement. Ça coûte de l'argent, ça fait perdre du temps à certaines personnes, on va dire. Et puis au final, ça détruit, entre guillemets, une œuvre qui aurait pu être bien sans. Après, Bleach, c'est quand même un animé et un manga qui sont exceptionnels. Vraiment, ça fait partie, j'ai l'impression, comme je vous l'ai dit, d'un pack de mangas qui ont marqué une génération. Alors vous allez me dire, Senseiya et puis lui, c'est pas du tout la même date. Oui, effectivement, mais par exemple, Senseiya, moi je sais que c'était vraiment quelque chose de très marketing. Mon père, par exemple, collectionnait les cartes que vous devez lui mettre dans des espèces de carnets. Je sais qu'il en a acheté je ne sais combien. Et c'est pareil pour Bleach, en fait. Bleach aussi, il y a eu des cartes où il fallait mettre ça dans des livres. Il y a eu énormément de produits dérivés. Ça a marqué une époque. Même là maintenant, j'ai envie de vous dire, moi je continue à regarder de temps en temps l'animé, à lire de temps en temps certains mangas parce que j'aime beaucoup certaines scènes. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on fait la distinction entre un manga qui a entre guillemets percé et puis un qui a vraiment marqué son temps, une époque. Bon, j'ai envie de vous dire, il est sorti en 2001, donc ça va, il a pas 100 ans. Mais c'est vrai que vraiment, il a marqué, je trouve, vraiment un bon nombre de personnes. Et c'est pareil pour énormément de mangas. Il y a Senseiya, je vous ai parlé de Dragon Ball, il y a également One Piece, il y a Naruto, bon, lui c'est le classique, on a envie de dire. Et en fait, tout cela, ils ont marqué, comme je vous l'ai dit, une génération. Mais en même temps, ils ont ce défaut d'être à rallonge. Ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a Naruto, il y a Naruto Shippuden, il y a ça. Dragon Ball, c'est pareil, il y a eu différentes variantes. Pour Senseiya, il me semble également qu'il y en a eu beaucoup. Senseiya, pour être honnête avec vous, regarder uniquement l'animé originel, lui, il est exceptionnel. Après, le reste, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Et après, bon, One Piece, on a envie de dire, c'est un peu une exception. Lui, c'est un seul et unique animé, mais qui fait un peu plus de 1000 épisodes. Bon, j'ai envie de vous dire, au bout de 1000 épisodes, je sais qu'il y en a qui continuent à s'accrocher. Moi, honnêtement, j'ai lâché depuis longtemps. J'ai envie de dire, en fait, à un moment donné, un animé qui fait 1000 épisodes, alors il a beau être exceptionnel autant que vous voulez, hein, mais c'est vrai que c'est très compliqué, on va dire. En fait, pour reprendre le parallèle avec Demon Slayer, il me semble qu'il y a 27 tomes. L'animé, pour le moment, compte 3 saisons. Il y a également eu un film par rapport au train. Bah, lui, pour le coup, alors oui, peut-être que 27 tomes, j'ai envie d'être honnête avec vous, il y a des combats, on s'en fiche. Mais en fait, vu qu'il y a tout le reste à côté, ben, ça compense. Donc du coup, ça va. Et j'ai envie de vous dire que c'est que 27 tomes, il n'y en a pas 74, il n'y en a pas plus de 100. Et puis pour Naruto, je ne sais plus à combien on est, mais c'est vrai que ça dépasse largement les 70. Donc en fait, je pense que vraiment un bon manga, ça fait pas plus de 35 tomes à peu près. Vraiment pour qu'il n'y ait pas des moments où ça soit complètement vide, où il n'y ait rien à raconter, où il n'y ait pas réellement d'histoire. Et par exemple pour Bleach, alors oui, j'ai envie de vous dire, il y a 74 tomes, oui, il y a des tomes qui sont très intéressants. Oui, le dernier arc est vraiment, vraiment super intéressant, lui, pour le coup, parce qu'on apprend réellement l'histoire de la Soul Society, les origines des pouvoirs de Ichigo, les origines des pouvoirs des autres également, je vous spoil rien, mais c'est vraiment un arc très intéressant. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, ben, on aurait pu peut-être le mettre avant, et puis en enlever d'autres, parce que là, pour le coup, il y en avait qui servaient à rien. Et pour le coup, peut-être que ça aurait été... après, vraiment, Bleach, c'est un très bon manga, c'est un très bon animé, je me répète. Mais vraiment, il y a des passages où vraiment on se dit, bon, on s'en fiche un peu, passe à autre chose, quoi. Vraiment, pour vous dire, des fois, je passais complètement des épisodes parce que je saturais un petit peu de voir Ichigo tout le temps avec son épée, là, qui se bat contre des holos qui, honnêtement, on s'en fiche, quoi. Et en fait, c'est ça dont je tenais réellement à vous parler aujourd'hui. Et en fait, je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant de parler de ça plutôt que de vous raconter en détail l'histoire et de ne pas pouvoir avoir... toutes les personnes qui puissent le regarder, puis étant donné que, enfin, toutes les personnes qui puissent écouter l'émission, étant donné que j'allais spoiler une grande partie de l'anime et du manga, je trouve que c'est plus intéressant de parler de certains points positifs et certains points négatifs. Après, pour être honnête, c'est un test, cette émission. Je pense que je vais en refaire pour d'autres animés. Alors, comme vous avez pu le comprendre, je pense que je vais en faire une pour Demon Slayer, une spéciale Demon Slayer, parce que c'est vraiment un animé qui m'a marqué. Mais je pense que là, pour le coup, je ferai différemment. Là, pour le coup, je raconterai l'histoire parce que c'est réellement intéressant de voir les différents combats. Mais là, pour le Bleach, je trouvais pas que c'était intéressant de revenir sur tous les arcs, surtout qu'il y en avait que j'avais pas forcément aimé. Après, pour terminer là-dessus, vraiment, même s'il fait 74 tomes, même s'il y a des arcs qui servent à rien, même s'il y a des arcs indépendants qui, eux, pour le coup, servent vraiment à rien, vraiment, pour le coup, c'est un très très bon manga qui m'a marqué. Mon père, quand il a commencé à faire la collection, je me souviens que je lisais avec lui et que j'avais complètement accroché. Après, comme je vous l'ai dit, c'est un shonen. Pour le coup, il y a certains combats dans l'animé que je trouve un petit peu violents. Après, est-ce que ce serait pas mon côté un petit peu maman ou grande sœur qui me dit « bon, c'est un peu violent, mais après tout, peut-être que ça peut passer ». Ce que je veux dire, c'est que si Bleach, c'est violent, alors Demon Slayer, on n'en parle pas. Mais donc, pour le coup, c'est vraiment un manga ou un animé que je vous conseille peut-être de voir en famille ou au moins de lire le tome 1, vous rendrez compte vraiment qu'il y a une histoire qui est exceptionnelle et un passé et vraiment un jeu sur les émotions qui est vraiment incroyable. Donc c'était My Manga Academia. Donc normalement on se retrouve le mois prochain pour la dernière émission de notre saison. Et puis normalement ce sera une émission sur une émission que j'avais hâte de faire sur les personnages qui sont entre guillemets détestés. Il y en a une qui va rentrer directement, vous voyez qui c'est, Sakura Haruno, elle va rentrer dedans forcément, et on va essayer de savoir pourquoi et également de peut-être les défendre. Donc c'était My Manga Academia, restez à l'écoute de Back FM 106.1.